Très bien. Donc, bienvenue dans cette deuxième séance du séminaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Boldeau, qui est directrice de recherche à l'INRIA à Saclay, qui a quand même réussi à venir ce matin, malgré cela. Et donc, Sylvie est spécialiste de. Donc, elle est informaticienne et mathématicienne, d'ailleurs, ça se voit sur son t-shirt. Et est spécialiste de mathématiques formalisées en coq et de l'arithmétique des ordinateurs. Et donc, elle va nous parler d'un sujet qui est l'intersection des deux. Donc, comment les ordinateurs calculent, en particulier en virgule flottante, et comment peut-on raisonner formellement sur ces calculs. Merci, Sylvie.
Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci à ceux et celles qui sont venus. Bonjour à ceux qui me regarderont peut-être à un moment. Et donc, je vais vous parler d'arithmétique des ordinateurs et de sa formalisation. Donc, j'ai évidemment quelques remerciements. Merci à Xavier Leroy de m'inviter dans ce cours et dans ce lieu prestigieux. Merci aussi à Guillaume Melchion, qui n'a pas pu venir et qui est co-auteur d'un certain nombre de travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà, ce n'est pas forcément que mon travail. Donc, je tiens à remercier les personnes qui ont participé. Donc, voilà le plan de mon exposé. Donc, je vais vous parler d'arithmétique des ordinateurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment l'ordinateur calcule en vrai? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence de formalisation, puisqu'on est dans ces thématiques-là, donc un petit peu de bug et de sémantique mécanisée, de théorème, et puis de compilation. C'était le cours du sujet de ce matin, donc je ferai un petit focus sur la compilation des nombres à virgule flottante. Alors, allons-y pour l'arithmétique des ordinateurs. Et un tout petit peu d'historique. Alors ça, c'est une tablette en argile des Babyloniens, qui date de 1600-1800 avant Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, il y a des petites encoches ici. Et en fait, les petites encoches correspondent à des chiffres. Et donc les Babyloniens, donc c'était quand même il y a à peu près 4000 ans, étaient capables d'effectuer les quatre opérations, d'extraire les racines carrées et les racines cubiques et de résoudre les équations du second degré. Et ils n'avaient pas de calculatrice. Donc extraire les quatre opérations, ça va. Extraire les racines cubiques, c'est quand même, ça nécessite un petit peu de travail sur papier. Et donc, pour ça, ils avaient évidemment des nombres, comme nous, mais pas exactement les mêmes. Ils calculaient en base 60. Et donc cette photo-là, représente en fait un nombre bien connu qui est racine de 2, avec 4 chiffres sexagésimaux, donc 4 chiffres en base 60, donc à peu près 6 chiffres décimaux. Donc pour calculer racine de 2 avec 6 chiffres décimaux, il faut quand même se prendre par la main et calculer un petit peu. Et donc ça, c'est ce dont je vais vous parler pendant tout cet exposé, c'est la représentation d'un nombre réel en précision finie. Parce qu'en fait, il n'y a juste pas assez de place, que ce soit sur la tablette babylonienne ou dans votre ordinateur, pour garder tous les chiffres, et donc on va en garder qu'un nombre fini. Donc ici, c'était 4. En général, ça va être un petit peu plus en base. Alors, toujours sur le calcul mécanisé et son historique, c'est la machine d'Anticyter, si j'arrive à le dire correctement, qui date d'un peu avant Jésus-Christ. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une reproduction. Et donc, c'est un des premiers calculateurs analogiques, pour un certain sens de calculateur, donc avec un certain nombre d'engrenages en cuivre. Et donc, c'est dédié à l'astronomie. Donc, c'était capable de calculer les éclipses solaires, les éclipses lunaires, avec une précision qui était vraiment bien pour l'époque. Et donc, il y a un certain nombre, effectivement, d'engrenages, comme vous voyez la représentation ici. Si on se rapproche du temps actuel, vous avez le boulier, donc qui date de... Non, en fait, c'est plus ancien que la machine d'Anticyter, mais ça continue à être utilisé. La machine Curta des années 40, donc qui permet de faire des multiplications base 10, mais c'est une machine, j'allais dire manuelle, parce qu'effectivement vous rentrez vos données, puis après il faut tourner pour obtenir le résultat de la multiplication. Et maintenant, ce que vous avez tous dans vos téléphones, ordinateurs, voire même machines à laver, c'est des processeurs. Je suis au Collège de France, donc j'ai emprunté le transparent de Gérard Berry sur effectivement le calcul humain assisté. Donc vous avez effectivement la machine Curta auquel il tient beaucoup. Et vous avez ici des choses pour calculer des logarithmes. Donc les tables de logarithmes, donc c'était des livres avec les valeurs des logarithmes et puis les tables, les règles à calcul. Pardon. Et puis bien sûr le professeur de mathématiques. Alors, un petit peu d'historique pour finir, sur un peu moins de calcul générique et un plus de calcul flottant. Le premier vrai processeur avec unité flottante, c'est les années 40, avec le Z3 de Konrad Zuse, qui avait déjà effectivement du calcul de ce type-là. Après, il faut arriver aux années 80 pour avoir un coprocesseur flottant, c'est-à-dire que votre ordinateur vient avec un coprocesseur spécifique pour la virgule flottante, qui faisait 50 000 opérations à la seconde. Impressionnant. Tout ça était un peu la jungle, avec un certain nombre de calculs qui ne se passaient pas de la même façon sur l'ordinateur. Les gens ont décidé de faire une norme. Donc la norme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la norme I3254, qui régit les formats et les calculs flottants. Donc elle dit, ben voilà, un flottant c'est ça, quand on fait un calcul, il se passe ça, ça et ça, et c'est arrondi de telle façon. Et donc ça, ça a plusieurs avantages. Il y a un avantage de portabilité, parce que quand vous passez d'un ordinateur à l'autre, ben, vous avez en principe le même résultat. Et il y a aussi un avantage pour nous qui faisons de la sémantique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on sait quel résultat est obtenu, eh ben, on peut prouver que ça va bien se passer. La norme a ensuite été révisée. Donc la dernière révision, c'est 2008, qui a notamment ajouté le décimal dont je ne parlerai pas dans cet exposé. La prochaine révision devrait arriver, alors en principe, c'était 2019, donc elle ne devrait pas trop tarder. En tout cas, on est toujours en train de travailler dessus. Alors, donc je vous ai parlé un peu de nombre à virgule flottante, mais je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était. Donc je vais commencer par un peu d'intuition, juste pour vous expliquer un peu comment ça marche facilement avant de rentrer effectivement dans les choses un petit peu plus techniques. En fait, c'est comme sur la tablette en argile tout à l'heure, je ne peux pas loger tous les chiffres. Il y a ce qu'on appelle une précision limitée. Je ne peux pas garder l'ensemble des chiffres, que ce soit de pi, de racine de 2 ou de 1 tiers. Et donc, on va limiter le nombre de chiffres qu'on garde. Donc, les valeurs qu'on représente sont des nombres flottants. Donc, par exemple, si vous considérez pi, ça fait 3,14. Donc là, j'ai fait un choix qui est de garder 3 chiffres en base 10, 3 chiffres décimaux. C'est plus facile à comprendre sur les transparents. Quand on a un nombre très grand ou un nombre très petit, en fait, on va utiliser ce qui s'appelle la notation scientifique, que vous avez probablement tous rencontré. Donc, mon 123456, je vais garder les 3 chiffres de poil plus fort, donc le 123, et je vais dire que c'est 1,23 fois 10 puissance 5. Et ce que je vais stocker, c'est uniquement le 1,23 et l'exposant 10 puissance 5. Pour un nombre très petit, eh bien, c'est pareil, là, je vais garder le 5,88, 10-2. Donc, ces exemples-là, pour la partie intuition, sont en base 10 avec 3 chiffres, c'est plus facile à expliquer. Et dans la vraie vie, vous avez sur votre ordinateur de la base 2 avec en général 24 ou 53 chiffres. On en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite quand on fait un calcul ? En fait, ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est que le processeur fait ce qu'il y a de mieux possible. C'est-à-dire qu'effectivement, étant donné les impératifs, il renvoie le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait calculé avec tous les chiffres. Donc, il avait calculé le réel infini avec tous les chiffres et qu'ensuite, il l'avait arrondi au nombre flottant le plus proche. Donc par exemple, si on veut calculer 3,14 au carré, eh ben, le résultat exact serait 9,8596, mais comme je peux garder que 3 chiffres, eh ben, je renvoie 9,86. Et donc c'est comme s'il avait calculé tous les chiffres et après, garder que les 3 les plus significatifs. Donc chaque calcul est arrondi. Alors quand on a un peu de chance, le résultat est exact, mais la plupart du temps, le résultat est arrondi et donc on fait une petite erreur. Donc j'ai dit, un calcul est parfait. Maintenant, on va faire deux calculs. Si vous prenez pi au carré, eh ben, c'est le transparent précédent, pi. Donc j'ai dit que ça fait 3,14, et c'est l'exemple juste avant, ça fait 9,86. Sauf que si vous prenez le vrai pi au vrai carré, le nombre réel que vous obtenez, eh ben, c'est plutôt 9,87. Donc ce qu'on aurait voulu obtenir dans un monde idéal, c'est 9,87, et ce qu'on a obtenu à cause de l'accumulation des erreurs de calcul, c'est 9,86. Donc, ok, c'est sur le dernier chiffre, c'est pas de beaucoup, etc. On peut se dire que bof, ça impacte juste un petit peu. Mais là, j'ai fait que deux calculs. Je vais faire un peu plus de calculs. Je vais calculer un polynôme. Donc, un polynôme, c'est quand même une fonction mathématique gentille. Donc, un polynôme de degré 3, c'est quand même pas très exagéré, dont les coefficients sont exacts. Donc, je suis toujours dans ce format bizarre décimal 3 chiffres. Et donc, en fait, là, je vous ai mis un graphe. Donc, avec deux courbes qui sont d'une part la valeur calculée, donc dans cette arithmétique à virgule flottante, et la valeur exacte. Donc là, vu de loin, les deux courbes se superposent de façon tout à fait élégante. On a l'air d'avoir un résultat mathématique parfait. Maintenant, on va faire un petit focus autour de la racine, ici. Et là, ça devient beaucoup plus étrange. Alors, je ne vais pas dire que c'est chaotique, parce que ça ne l'est pas. Donc, vous avez toujours en vert, ici, la valeur exacte. Donc, la valeur exacte de votre polynôme, c'est une courbe continue, croissante, gentille, qui rencontre l'abscisse à un seul endroit. Les valeurs calculées, par contre, c'est plutôt... ça monte et ça descend très fort. En particulier, vous avez des endroits, ici, où ça devrait être négatif et où la valeur exacte est positive, elle vaut quand même 0,6, et des endroits, ici, où ça devrait être positif, où ça vous calcule à peu près 0,5. Je signale aussi que pour un polynôme de degré 3, il rencontre, ici, il a quand même beaucoup de racines. C'est considéré comme mal d'avoir autant de racines pour un polynôme de degré 3. Donc ça, c'est la vraie vie. Donc la vraie vie, ça calcule comme ça. Donc ce que les gens pensent, c'est le vert, et ce que l'ordinateur calcule, c'est le rouge. Ça y est, je crois que j'ai compris, j'ai réussi à motiver mon exposé. Alors, un autre exemple, c'est l'orientation de trois points. Donc on a une droite QR et un point P. Et la question, c'est de savoir si le point il est à droite ou il est à gauche de la droite. Donc ça a l'air d'un problème mathématique intéressant, c'est aussi un problème de jeu vidéo intéressant. J'ai besoin de savoir si mon héros de jeu vidéo il est dans une pièce ou dans une autre, ou il a réussi à monter sur le mur. Et donc c'est intéressant de savoir si effectivement on peut savoir ça. Mathématiquement, c'est le signe d'un terminant de matrice, donc c'est un calcul mathématique bien connu, il n'y a aucun problème mathématique là-dedans. Et donc ce qu'on peut faire, c'est écrire un programme, et donc ça c'est des programmes qu'on trouve, donc avec des flottants, et donc on fait effectivement les soustractions, les multiplications flottantes. Quand c'est strictement positif, je renvoie positif, c'est strictement négatif, je renvoie négatif, et sinon je renvoie zéro. Tout va très bien au pays des mathématiques. Donc restons quelques instants au pays des mathématiques. Donc au pays des mathématiques, ça ferait un dessin comme ça. Donc le dessin comme ça, c'est quand je suis vert, je suis sur le mur, donc je suis aligné sur la droite QR. Quand je suis à gauche, je suis bleu, quand je suis à droite, je suis rouge. Donc ça permet d'avoir une représentation graphique de la réponse de ce programme. Donc ça, c'est dans un monde idéal où on calcule avec tous les chiffres. Donc on calcule parfaitement dans les réels. J'ai choisi un point, pas complètement au hasard évidemment, et donc je vais vous montrer ce que ça donne en pratique. Donc ce que ça donne en pratique, c'est ça. Donc je vous signale que ce point-là, celui-là et celui-là sont alignés, c'est ce que vous répond l'ordinateur, ils sont alignés. Ici, on est à droite, hop, on est aligné, puis après on est à nouveau à droite, alors qu'on s'est rapproché du mur. Après là, on est aligné, on est à gauche, on est aligné, si on va un petit peu, on est à droite. Donc quelque part, tout ça fait des choses qui sont incohérentes. Donc là, sur mon dessin, c'est joli, mais imaginez que vous avez ça au milieu d'un gros programme, et ben, ça peut faire des choses qui sont incohérentes et faire planter les programmes qui suivent. Donc c'est des questions qui sont effectivement intéressantes, et là on voit qu'on touche la limite de la précision de ces calculs. Alors, donc ça c'était l'intuition, c'était juste pour vous donner une idée des erreurs, de qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails sur savoir comment en vrai c'est stocké dans votre ordinateur. Donc en vrai c'est une suite de bits, comme n'importe quoi dans un ordinateur, donc des 0 et des 1. Là je vous en ai mis 32, donc c'est un format qu'on appelle simple précision, binary 32. Et donc, en fait, on va lui donner un sens, qui est une valeur réelle, en le coupant en trois morceaux, qui sont le signe, l'exposant et la fraction. Et la valeur, ensuite, est la suivante. Donc, si le signe est 1, c'est négatif, sinon c'est positif. La première valeur est considérée comme un entier, ça devient son exposant. Alors, il y a la soustraction d'un biais qui est une constante. Et ici, vous avez la valeur, donc les chiffres significatifs. Donc, ici, si vous repensez à la représentation tout à l'heure en base 10, ça, c'est le 3,14 et ça, c'est le 10 puissance 0, ou les 10 puissance moins 5 ou moins. Donc, ici, on a une interprétation de cette suite de bits comme un réel. Et donc, cette suite de 32 bits vaut à peu près moins 3, 10 puissance 21. Donc, on a effectivement une interprétation complète. Alors, je vous ai un petit peu menti, parce qu'il y a des valeurs spéciales de l'exposant, sur lesquelles je vais revenir tout de suite. En fait, sur les valeurs minimales et maximales de l'exposant, ça ne se passe pas comme ça, sinon ce serait trop facile. Plus exactement, quand l'exposant est entre 0 et max, c'est la valeur normale, donc ce que je vous ai présenté juste avant. Quand l'exposant est égal à 0, c'est les nombres très petits, qu'on appelle dénormalisés. Il y a un dessin juste après pour vous les montrer. Mais juste l'idée, c'est que tout à l'heure, on avait 1 point la fraction, et maintenant c'est 0 point la fraction. Et en particulier, ça fait cette chose absolument magique, qui est que dans les nombres flottants, on a un plus 0 et on a un moins 0, qui sont considérés comme égaux, mais qui n'ont pas la même représentation bit à bit. Et après, on a des choses un peu plus étranges avec l'exposant maximal. Quand l'exposant maximal, la fraction vont 0, on a des infinis. Votre ordinateur connaît le concept d'infini, il est capable de calculer avec, ça ne lui pose aucun souci. Et par contre, quand l'exposant est maximal et que la fraction est non nulle, vous avez un truc étrange qui s'appelle un NaN. NaN, c'est not a number. C'est donc pas un nombre, si on prend la traduction mot à mot, c'est quand il n'y a pas de réponse intelligente à la question que vous lui posez. C'est-à-dire, si vous lui demandez qu'est-ce que c'est la racine carrée de moins 1, ou qu'est-ce que c'est 0 divisé par 0, et ben, il n'y a pas de valeur réelle raisonnable pour répondre à votre question. Et donc, ce qui vous répond, c'est ben, je ne sais pas, débrouille-toi, ça n'a pas de sens la question que tu me poses. Et donc, il vous fait une réponse parce qu'il est obligé, cette réponse, c'est NaN. On en reparlera un petit peu plus tard encore. Alors, donc la précision, c'est le nombre de chiffres de la mantisse. Donc ce qu'on utilise usuellement dans les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle la double précision, ou binary 64, et la simple précision. Donc celui-là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, et l'autre, c'est celui qui est utilisé le plus classiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, généralement, quand vous faites rien, vous êtes en double précision avec 53 bits. Et Une définition que je vais utiliser un petit peu plus tard, c'est l'ULP. ULP, ça veut dire Unit in the Last Place. C'est la valeur du dernier bit de la mantisse du flottant. Et donc, ça veut dire, en gros, tout à l'heure, quand j'ai dit le dernier chiffre, il est faux, c'est la valeur de ce dernier chiffre, sur lequel, effectivement, on peut avoir du bruit, étant donné les calculs précédents. Enfin, quand c'est que sur le dernier chiffre, on a de la chance. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de dire, c'est juste sur le dernier chiffre. Donc, en particulier, si vous prenez 1, son ULP, c'est 2-52. Donc, effectivement, quand on fait des petites erreurs autour de 1, cette sorte de grandeur-là. Et ça, c'est pour les dénormalisés. Donc, l'ordre de grandeur des dénormalisés, donc le nombre le plus petit non nul, c'est 2^-1074. Donc, effectivement, en dessous de 2^-1074, il n'y a plus de nombre flottant. Et donc, lorsqu'on obtient un dénormalisé, on parle d'underflow. Donc, je vais essayer de ne pas utiliser le mot anglais, parce qu'on peut dire dépassement de capacité inférieure. Mais j'avoue que j'ai tendance à utiliser underflow par habitude. Et donc, ça, c'est la répartition des flottants. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris les définitions précédentes, ce n'est pas grave. Les flottants, c'est un ensemble fini de valeurs réelles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les réels, donc ça, c'est la droite réelle, et on n'en a qu'un nombre fini, qui sont les petites barres verticales. Et donc, les petites barres verticales, il y a les petits qui sont les dénormalisés. Donc, vous voyez qu'ici, entre 0 et celui-là, il n'y a rien. Après, ils sont tous à la même distance. Et après, il y a les normalisés, qui sont tous les autres. Et donc, si vous avez une suffisamment bonne vue, vous verrez que je change de couleur sur les petits traits. Et en fait, à chaque fois que je change de couleur, en fait, c'est que le nombre flottant change d'exposant. Et donc, quand on change d'exposant, on change ce qu'on appelle de binade. Et donc, là, à ce moment-là, l'ULP change. Et donc, la distance entre le flottant suivant, change. Donc ici, quand ils sont très petits, ils sont très proches les uns des autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de flottants entre 0 et 1. Par contre, quand ils deviennent très grands, ils sont de plus en plus espacés les uns avec les autres. Et donc ça, c'est l'ULP, effectivement. La distance entre un flottant et son successeur, c'est effectivement la valeur du dernier bit sur les positifs. Alors, maintenant qu'on a des nombres, on fait des calculs. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la norme définit maintenant 5 modes d'arrondi. Celui que vous avez par défaut, c'est le premier. Ce qu'on appelle l'arrondi au plus proche pair. C'est-à-dire, quand vous avez le choix, vous renvoyez le nombre flottant le plus proche. Sauf qu'évidemment, y a un cas bizarre au milieu. C'est quand on est au milieu, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, par défaut, on renvoie celui qui a la mantisse pair, c'est-à-dire dont la représentation finit par un zéro. Ça a un certain nombre d'avantages. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a des intérêts pas que d'avoir un choix. Et on a aussi un certain nombre d'autres arrondis. Donc, on a des arrondis, ce qu'on appelle dirigés, l'arrondi vers moins l'infini et plus l'infini. Donc, si on veut être sûr d'être en dessous de la valeur réelle ou au-dessus de la valeur réelle, l'arrondi vers zéro. Et depuis peu, on a un arrondi au plus proche avec choix loin de zéro. Donc ça, vous pouvez penser à ça en termes bancaires. Donc, ils vont, par exemple, calculer vos intérêts. Et quand il est au milieu, il ne faut pas que statistiquement, ce soit une fois sur deux dans un cas ou dans un autre. Il faut que vous payiez toujours plus. Donc, effectivement, il faut qu'on s'éloigne du zéro. Et donc, chaque calcul élémentaire, est parfait. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'arrondi correct. C'est comme si on avait calculé avec tous les chiffres et ensuite arrondi. Alors ça, c'est vrai sur les opérations élémentaires qui sont addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée. Donc sur tous ces calculs-là, on sait obtenir le résultat parfait. Donc addition, soustraction, multiplication, c'est assez facile. Division, racine carrée, c'est un petit peu plus dur, mais on sait faire. J'ai pas le temps de parler de toutes les fonctions élémentaires, cosinus, exponentielle, etc. On commence à savoir faire, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, je voulais reparler un petit peu des infinis, vers l'infini et au-delà. Donc, on peut calculer avec des infinis et des zéros, de façon intuitive. Donc, votre ordinateur connaît plus l'infini, donc vous pouvez lui demander 1 plus l'infini, il va vous répondre plus l'infini, moins 3 fois plus l'infini, il va vous répondre moins l'infini. Et ça se passe tout à fait comme dans les mathématiques, avec les limites. Sauf que, imaginez que vous prenez 10^100 au carré, ça fait plus l'infini, aucun problème. Vous en prenez l'inverse, ça fait 0, parce que le nombre flottant le plus proche de celui-là, c'est 0. Et donc, si vous en reprenez l'inverse, là, ça fait boum. Alors, en fait, ça ne fait pas exactement boum, ça va vous renvoyer plus l'infini. Mais généralement, quand il y a une division par 0, votre programme, il s'arrête et il crache en disant division par 0. Donc, ça veut dire que vous avez un nombre dont vous ne pouvez pas prendre l'inverse de l'inverse. Donc, mathématiquement, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est comme ça, parce qu'effectivement, étant donné que l'exposant aussi a des limites, je ne peux pas représenter toutes les ordres de grandeur que j'aimerais bien. Alors là, c'est quand même des nombres très grands. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est le NaN. C'est-à-dire qu'effectivement, le processeur vous renvoie toujours un résultat, même quand le calcul n'a aucun sens. Et donc, quand on fait racine de moins 1 plus infini moins l'infini, on obtient un âne. Alors, je voulais juste vous mettre un petit exemple. Alors, 10 heures, voilà, c'est un truc pour écouter de la musique. Et si vous regardez ici, eh bien, ça arrive ici. Ou si vous regardez une vidéo du monde, c'est même juste d'ailleurs, ici. Alors, ce qui est fou, c'est pas que ce soit calculé un âne. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que les choses n'ont pas été réussies à être téléchargées, et donc il a fait un 0 divisé par 0. Mais que ça arrive jusqu'à l'utilisateur, et que l'utilisateur voit arriver jusqu'à lui un âne, est quand même assez surprenant. Alors, donc je vous ai montré l'arithmétique flottante, sa complexité, ses problèmes, et donc je pense que ça justifie un petit peu de le formaliser pour être sûr de ce qui se passe. Alors je vais en rajouter encore un tout petit peu, en vous parlant un petit peu de bugs. L'erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. J'aime beaucoup cette phrase. Et donc il peut y avoir un bug matériel, donc le processeur est faux. Alors c'est arrivé, mais ça commence à dater un petit peu. Et c'est vraiment très rare. Donc le dernier, c'est le bug du Pentium, qui date de la fin des années 90, le millénaire précédent, avec certaines divisions qui étaient fausses à partir du cinquième chiffre. C'est-à-dire qu'effectivement, certains calculs n'étaient pas arrondis correctement, contrairement à ce qui était marqué dans la norme. Donc ça a été découvert par un mathématicien qui faisait la théorie des nombres d'ailleurs, et ça leur a coûté 475 millions de dollars. L'idée étant que tous les gens qui ont demandé à changer de processeur, ils leur ont envoyé un processeur corrigé. Ils estiment que ça leur a coûté à peu près autant en termes d'image, et après ils se sont mis à faire des méthodes formelles pour que ça n'arrive plus. Et il peut aussi y avoir un bug logiciel. Alors là par contre, effectivement, nous avons des tonnes d'exemples, vraiment des tonnes d'exemples. Alors je pouvais difficilement me passer d'Ariane 5. Donc c'est un problème de valeur maximale qui a été dépassé. Et là aussi, c'est le même ordre de grandeur. Donc les satellites qui étaient dedans étaient pour 500 millions de dollars. Donc ça représente quand même des sommes très importantes. Alors, des bugs plus liés au calcul, vous prenez Microsoft Excel 2007. Ça a été corrigé après, mais sur la version 2007. Dans la première case, vous mettez 850, dans la deuxième 77,1, et vous faites la multiplication entre les deux. Ce qui n'est quand même pas un calcul très compliqué, je pense qu'à la main, on y arrive. Moins vite que l'ordinateur, mais quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Excel vous répond 100 000, alors que la vraie réponse est 65 535. Alors, les informaticiens dans la salle ont reconnu quasiment une puissance de nœud, 65 136, une puissance de 2. Donc, c'est amusant, parce que c'est un vrai bug. Ce que moi, j'ai trouvé encore plus intéressant dans cette histoire-là, c'est la réaction de Microsoft qui a dit « c'est pas grave, c'est qu'un bug d'affichage ». Parce qu'en fait, si vous reprenez la valeur et que vous calculez avec, il prend bien le 65 535. Néanmoins, si c'est la réponse qui vous affiche à la fin, vous n'avez pas de raison d'en douter. Et donc, ce que vous croyez, c'est 100 000. Donc, avec une erreur qui est quand même plus de 30%, ce qui est quand même assez importante. Donc, je ne suis pas capable de vous expliquer cette erreur-là parce que le code est fermé. Alors, ce qu'on pense, c'est effectivement... En fait, ça, c'est un nombre en décimale. Et votre ordinateur... actuellement calculant en binaire, et en fait la conversion entre le décimal et le binaire, c'est pas trivial. Et donc on pense qu'effectivement ils avaient un bug dans cette transition-là, entre le décimal que vous affichez et le binaire avec lequel votre ordinateur calcule. Mais on n'est pas sûr. Alors un autre que j'aime bien, trouvé par un collègue de Lyon qui s'appelle Vincent Lefebvre, vous prenez Maple, c'est une architecture 64 bits, et vous prenez un nombre, je sais même pas comment il l'a trouvé, un nombre très grand, qui s'appelle X, et vous calculez 10 fois X, 9,4 fois x et 9,5 fois x. Théoriquement, 9,5 devrait être entre 9,4 et 10, sauf que la vie est un peu plus compliquée que ça. Donc x, ça vaut ça, donc c'est grand. 10 fois x, ça vaut l'infini. Alors ça, c'est admissible. Quelque part, c'est trop grand pour être représenté, c'est une valeur très grande. Bon, on peut discuter de s'il faut planter ou renvoyer plus l'infini, néanmoins, c'est valide. 9,4, ça vaut ce truc-là, qui est à peu près le bon. Et 9,5, ça vaut... Alors, avec Maple 1 à 13, ça fait segmentation fault. C'est quand même assez intéressant. Avec Maple 14 et 15, ça vous répond un nombre très petit. Ici, il y a un moins là, sur l'exposant. Il y a un moins. Donc c'est un nombre très, très, très petit. Et avec Maple 17, il vous répond 0,1. Voilà, voilà. Alors, Vincent a aussi des exemples pour une machine 32 bits où vous considérez ce nombre-là qui est plus petit, et ça peut même faire out of memory. De rentrer un nombre. Donc ça, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas si facile de calculer avec des nombres avec plein de chiffres, mais qu'on essaye quand même. Et donc, j'arrive évidemment à la partie sémantique mécanisée. Comment on fait pour être sûr? Parce qu'effectivement, je vous ai montré qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas intuitifs. Il y a une norme qui régit tout ça. Donc on sait comment ça se passe, mais effectivement, tenir compte de tous les cas, eh ben, c'est dur. Et c'est pour ça qu'on fait des preuves formelles. Donc je vais parler d'une bibliothèque qui s'appelle FLOC, qui est une bibliothèque Coq développée par Guillaume Melchion et moi-même, qui définit effectivement les nombres flottants, les arrondis, et puis des tas de théorèmes dessus. On a voulu faire ça le plus générique possible, donc à la fois en termes de base, parce qu'actuellement, votre ordinateur calcule en base 2, mais il commence à y avoir des serveurs qui calculent en base 10, donc ça devrait finir par arriver jusqu'aux ordinateurs, et donc quelque part, on n'a pas envie de refaire tous les théorèmes, quoi, parce que la plupart sont valables, quelle que soit la base. De format, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des formats avec 24 ou 53 bits de précision, mais quand on aura 80 ou 120, et ben les théorèmes s'appliqueront toujours. Et puis d'arrondi, parce qu'effectivement, on a l'arrondi au plus proche pair, et puis là, maintenant, on a l'arrondi au plus proche loin de zéro. Et donc, quelque part, si quelqu'un fait un autre arrondi au plus proche avec un autre choix, les théorèmes sont toujours valides. Et elle est complètement disponible à cette adresse. Vous pouvez taper juste floc, coq, et ça marche. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un nombre flottant? Alors, en fait, on a un format flottant qui est une fonction phi d'un entier vers un entier. Alors, je vais vous expliquer. En fait, un nombre flottant, c'est un réel. On considère ça comme un réel qui a une propriété spécifique. Et cette propriété, c'est d'être dans un format. Alors, on est dans un format quand on peut être représenté avec un certain exposant, qui est l'ULP de tout à l'heure. C'est-à-dire, si je peux être représenté comme un entier fois cet exposant-là, fois 2 puissance cet exposant-là, eh bien, je suis un nombre flottant. Donc, quelque part, ça veut dire qu'ici, j'ai le EX qui est l'ordre de grandeur, en gros le log du nombre. La fonction phi me donne l'exposant qui est censé avoir le flottant qui correspond. Et en fait, je suis un nombre flottant quand eh ben, je peux être représenté comme un entier fois 2 puissance phi de 2x. Alors, ça devrait être générique avec un bêta, mais ça marche. Là, c'était pour la base 2 qui était l'exemple le plus classique. Et donc, quelque part, si je suis un entier fois 2 puissance ce truc-là, eh ben, je suis un nombre flottant représentable dans le format. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le phi? Ah, pardon, d'abord les arrondis. Donc après, les arrondis, on a toute la panoplie des arrondis. Et en fait, ce qui est assez pratique ici, c'est qu'on a un arrondi donc, qui prend un réel et qui renvoie un entier, qui est en fait, je prends la mantisse, donc avec tous les chiffres, et je renvoie l'entier, ce qui correspond. Et donc ça peut être soit l'arrondi vers le bas, avec le flore habituel des entiers, l'arrondi vers le haut ou d'autres choses. Donc, je voulais revenir sur les phi, donc le truc qui définit le format flottant. Donc pour un format en virgule fixe, donc la virgule fixe, c'est juste, ils ont tous le même exposant. L'exposant qui s'appelle Emin. Et donc à ce moment-là, le phi, c'est une fonction constante qui est à Emin. Et donc je suis dans ce format-là si je peux être représenté comme un entier fois 2 puissance Emin. Après, on a la virgule flottante, dont j'ai parlé depuis le début. Et donc en précision P, ça fait E-P. Donc E-P correspond au cas où j'ai P bits de précision et tous les exposants. Donc ça, c'est le monde idéal où j'ai tous les exposants, qui n'est pas la vraie vie, parce que j'ai des exposants limités. Et donc, quand je considère le dénormalisé, j'ai une autre fonction ici, qui est le max entre effectivement le et min. Donc quelque part, c'est un mélange entre de la virgule fixe et de la virgule flottante non bornée. Je peux aussi avoir un truc sans les dénormaliser. Dans certains cas, en fait, il y a une option du processeur où je peux dire je ne calcule pas avec les dénormalisés, parce que c'est souvent beaucoup plus lent. Donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle du flush to zero, F to Z. Alors moi, je suis contre pour un certain nombre de raisons, notamment formelles, mais effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, on a un moyen de représenter ça dans la formalisation. Alors, je vous ai défini formellement, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut prouver avec? C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, on peut dire que les arrondis sont fidèles. C'est-à-dire qu'effectivement, si on définit l'arrondi vers le bas, et bien l'arrondi vers le bas, c'est le flottant le plus... L'arrondi vers le bas, c'est le flottant le plus grand, qui est plus petit que ce que je veux arrondir. Et pareil, l'arrondi vers le haut, c'est le flottant le plus petit, qui est plus grand que cette valeur-là. Et ce que je peux prouver, c'est que tous mes arrondis, ben, c'est l'un des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, avec un arrondi, je renvoie toujours soit celui vers le haut, soit celui vers le bas, donc ceux qui encadrent. Après, on a des lemmes plus intéressants, genre l'idempotence. C'est-à-dire si je suis un flottant et qu'on m'arrondit, eh ben, je reste moi-même. Donc quelque part, le fait que quand on a un nombre exact, eh ben, on ne fait pas d'erreur dessus. Et après, on peut prouver de la monotonie. Par exemple, si j'ai deux réels qui sont inférieurs l'un à l'autre, ben je les arrondis, ben ils sont toujours inférieurs l'un à l'autre. Je signale juste que si vous mettez un strict ici, et ben vous n'avez pas le droit de mettre de strict ici, ça ne marche pas. Il faut toujours l'inférieur ou égal ici. parce qu'effectivement, si vous avez deux nombres réels proches, ils peuvent être arrondis sur le même. À ce moment-là, on a l'égalité. Donc, ce qui prouve que c'est pas... Ça a l'air simple, mais il y a quelques subtilités où il ne faut pas... Il ne faut pas se tromper. Et justement, les preuves formelles nous aident à ne pas nous tromper. Alors, le plus classique en arithmétique flottante, et ce que font généralement les gens, c'est borner les erreurs d'arrondi. C'est dire, bah voilà, ce que je voulais calculer, c'est un réel, et bah, à quelle distance je suis de ce réel-là. Et donc, pour ça, on a un certain nombre de théorèmes, notamment pour borner sur un calcul. Et en fait, le plus élégant, c'est celui-là, qui dit, bah voilà, l'arrondi de x, donc là, c'est en arrondi au plus près, j'ai une variante en arrondi dirigé. C'est l'arrondi réel fois un 1 plus epsilon avec un epsilon qui est petit, qui est borné par 2 puissance moins p. Donc avec le format usuel, c'est borné par 2 moins 53. C'est quand même petit. Plus une constante. Alors la constante, elle est due à une constante. C'est aussi une variable, mais qui est bornée. Donc ce terme-là, pardon, est une erreur relative, alors que ce terme-là est une erreur absolue. Et en fait, on a besoin des deux à cause des dénormalisés. Parce qu'en fait, quand on est très proche de zéro, on n'a plus une erreur, on ne peut plus représenter l'erreur en erreur relative, sinon on a des facteurs qui sont très importants, on est obligé de le représenter avec des erreurs absolues. Et donc, pour vous donner des ordres de grandeur, ici, le epsilon il est borné par 2-53 en général, et ici, le delta est borné par 2-1075. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont très petites. Néanmoins, on ne peut pas se passer de ça, parce que si vous arrondissez un nombre très proche de zéro, en relatif, ça ne marche plus. Et en plus, on sait que l'un des deux vaut zéro. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on est dans les normalisés, on a l'erreur relative et delta vaut zéro, soit on est dans les dénormalisés, à ce moment-là, on est petit, on a une erreur absolue, et à ce moment-là, c'est le epsilon qui est égal à zéro. Alors, un autre truc qui est très utile, c'est qu'en fait, quand on fait une addition, l'addition des dénormalisés, elle est exacte. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est le fait qu'effectivement, on est des nombres dénormalisés. Et donc, en fait, quand on a deux nombres et qu'on les additionne ou qu'on les soustrait, on ne peut pas avoir d'erreur même quand on est très petit. C'est-à-dire quand on a des erreurs quand on est très grand, où effectivement, on peut avoir de l'absorption. Mais quand on est dans les dénormalisés, on ne commet pas d'erreur. Et donc, si votre soustraction est suffisamment petite, elle est exacte. Et donc, ça veut dire qu'on a une variation du théorème précédent, disant, quand on fait une addition, on n'a que le terme en epsilon, que l'erreur relative, l'erreur absolue, en fait, est toujours nulle. Donc ça permet effectivement d'améliorer un certain nombre d'erreurs. Et un théorème que moi j'utilise très souvent, qui est un théorème qui est dû à Sterbens. Alors la paternité est disputée par Kahn, ça date des années 70 en tout cas. En fait, si vous avez deux nombres très proches, donc dans un rapport 2, alors c'est toujours 2 là, c'est pas la base, c'est toujours 2. Alors en fait, la soustraction entre les deux est représentable, et donc la soustraction est calculée sans erreur. Alors, c'est assez marrant parce que quand on a une soustraction de deux nombres proches, les gens appellent ça une cancellation parce que les erreurs précédentes sont magnifiées par la soustraction. Parce que si vous avez deux nombres qui sont proches mais avec une petite erreur et que vous les soustrayez, vous grandissez l'erreur. Néanmoins, cette soustraction-là elle-même est exacte. Et donc ça se prouve assez facilement. Et celui-là, comme le précédent, sont des théorèmes qui nécessitent l'existence de dénormalisés. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le mode flush to zero dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est pas vrai, et l'addition exacte n'est pas vraie non plus. Alors, un petit exemple, un peu plus compliqué, parce que là, je vous ai fait un seul calcul. On va calculer le discriminant. Donc le discriminant, c'est que c'est dans un polynôme degré 2 pour savoir combien il y a de racines. Donc je voudrais calculer B2 moins AC. Et en fait, c'est difficile de calculer précisément ça, parce que justement, quand B2 et AC sont proches, ça peut vous répondre un truc qui n'est pas du bon signe. Donc, il y a des exemples comme ça où ça donne pas le bon. Et donc, il y a un algorithme et un théorème dû à Kahn qui dit, dans les cas où il n'y a pas d'underflow ni d'overflow, pardon, pas de dépassement de capacité supérieure ou inférieure, il a un algorithme qui calcule B2 moins AC à 2 ulpes près. C'est-à-dire, quelque part, seul le deuxième, le deux fois la valeur du dernier chiffre peut être exact, peut être inexact, pardon. Et donc ça veut dire que dans la plupart des cas, effectivement, on a le bon signe, on a une valeur qui est très très proche de la vérité. Et donc là, je vous ai mis, alors je fais un très léger saut des théorèmes Koch mathématiques au programme, mais c'est quand même beaucoup plus facile de le montrer comme ça sur des programmes, et il est prouvé en tant que programme, mais c'est hors du scope de ma conférence. Et donc c'est un programme donc relativement court, parce qu'il loge sur un transparent. Et donc, je vais vous raconter ce qu'il fait. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais calculer B fois B et A fois C. Et après, je fais un test magique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et suivant la valeur du test magique, soit je dis, ah bah, pour calculer B2 moins AC, eh bien, je calcule B2 moins AC, c'est-à-dire que je fais l'algorithme naïf considérant à faire bêtement les calculs flottants B fois B moins A fois C, donc c'est celui-là. Et dans les autres cas, je fais un truc beaucoup plus compliqué consistant à calculer l'erreur de la multiplication. C'est-à-dire que je vais calculer, donc, parce qu'en fait je suis capable en flottant de calculer à la fois une multiplication et son erreur flottante, qui est aussi un nombre flottant. Et donc je calcule l'erreur, et après je somme tout le monde dans le bon ordre. Donc là, il y a des parenthèses qu'il ne faut absolument pas enlever. Et à ce moment-là, ça vous renvoie à un truc qui est effectivement beaucoup plus précis. Donc je vais vous parler un petit peu du bleu, qui sont des annotations. Et donc ça dit, ben voilà, dans certains cas, donc je suis capable de quantifier le fait qu'il n'y ait pas de dépassement de capacité inférieure ou supérieure. Donc voilà, j'ai des hypothèses en entrée sur mes ABC qui disent, ben voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles ce programme fonctionne. Donc là, il y a des conditions sur ABC qui ne doivent pas être trop petits. Ils ne doivent pas non plus être trop grands, parce que sinon j'ai des plus l'infini, voire même des nonnes. Et si tout ça est vérifié, en fait, ce que je garantis, c'est que le résultat soit il est égal à zéro, à ce moment-là, je ne sais pas. Si c'est zéro, ça pouvait être positif ou négatif, ou je suis à deux ulp du résultat Oxlett. Donc ça, c'est un programme que j'ai prouvé. Et donc ici, il y a des appels de fonctions, donc c'est des programmes, d'autres programmes qui calculent l'erreur de la multiplication que j'ai aussi prouvé. Donc il y a des préconditions et des postconditions, et donc ça me garantit en fait que P plus DP égale à B2 et Q plus DQ égale à AC, sauf en cas de dénormaliser que j'ai justement empêché ici. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, l'algorithme initial est faux, parce qu'en fait, il supposait que ce test était correct, c'est-à-dire qu'effectivement, ce test était équivalent au test mathématique, que P plus Q était plus petit que 3 fois valeur absolue de P moins Q, sauf que quand je fais 3 fois valeur absolue de P moins Q, eh bien, je fais une erreur flottante dans cette multiplication, et ce qui fait qu'en fait, le test ici flottant et le test réel idéal ne donnent pas toujours le même résultat. Néanmoins, dans ces cas-là, sont très précis, en fait, il y en a très très peu, et dans ces cas-là, en fait, on peut prendre n'importe laquelle des branches, et ça marche dans tous les cas. Néanmoins, on ne s'en était pas rendu compte avant, et donc on pensait qu'effectivement, il y avait un trou dans la preuve qu'on a trouvé seulement en prouvant le programme. Alors, le cours de ce matin parlait de compilation et d'optimisation, donc je vais faire un tout petit focus, si j'ai le temps, sur la compilation. Alors, je vais vous parler juste un petit peu de ce que disent les langages. Donc, si vous prenez Fortran, eh ben Fortran vous dit, quand c'est mathématiquement équivalent, on peut réorganiser. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas de parenthèse, moi, compilateur, je fais ce que je veux. Et en particulier, si vous avez A plus B plus C plus D, eh ben Fortran peut l'interpréter soit alors, comme ça, parenthésé à gauche, soit le faire comme ça, ce qui pour du parallélisme effectivement peut être intéressant, ou parenthéser dans l'autre sens. Après tout, il fait ce qu'il veut. Et tout ça est légal, c'est-à-dire qu'effectivement, le compilateur a le droit de faire ça. Ce qui signifie qu'effectivement, suivant deux compilateurs, vous pouvez avoir deux résultats différents, ce qui est quand même contraire à l'esprit de la norme, mais effectivement, les langages autorisent ça. Et je vous signale que l'addition flottante n'est pas associative, avec un exemple ici relativement classique. Donc vous prenez delta, qui est très petit. En fait, c'est l'ulp de 1 divisé par 2, c'est la moitié de l'ulp de 1. Et donc vous faites ce delta plus 1 moins 1. Et bien en fait, si vous le parenthésez à gauche, ça fait delta plus 1, en fait le delta est absorbé. Delta plus 1, ça fait 1. Et donc après, si vous faites 1 moins 1, ça fait 0, pour de vrai. Et par contre, si vous parenthésez dans l'autre sens, ça vous fait 1 moins 1, 0, plus delta, ça fait delta. Donc vous avez un parenthésage qui vous renvoie 0 et l'autre qui vous renvoie 2 moins 53. Ce qui fait quand même une différence assez importante. Et donc, ici, il est évident que je peux vous trouver des exemples qui donnent des résultats différents dans ces trois cas. Donc ça, c'était Fortran. C'est différent, pas pareil, pas forcément beaucoup mieux. Il ne fait pas de réorganisation avec les parenthèses, le parenthésage est imposé. Néanmoins, il est autorisé de calculer avec plus de précision ou plus de plage d'exposants que le type demandé. Et ça, c'est autorisé par le standard. Et donc, en particulier, on peut avoir de la précision étendue. Donc, ça, c'est un petit exemple. Vous avez X et Y, qui sont des nombres flottants tout à fait normaux, en double précision, binaire 64, et vous faites la somme entre les deux. Et bien, en fait, ça peut produire deux valeurs différentes, parce que... Alors après, ça dépend aussi de votre processeur et de votre compilateur, évidemment, ça dépend de plein de choses. Ce que vous attendez à obtenir, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vos deux nombres en 64 bits et vous faites votre addition directement en 64 bits. Ça vous donne un plus de moins 52. Sauf que sur certains processeurs, vous avez en matériel un format flottant étendu, qu'on appelle binary 80, où vous avez 64 bits de précision. Et donc, la standard C autorise à faire le premier calcul en 80 bits. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait x plus y en 80 bits. Et après, seulement, quand je lui demande de l'afficher, il va me le restocker en binary 64. Donc, on a ce qu'on appelle un double arrondi. C'est-à-dire, il fait d'abord le calcul en 80 bits et après, il arrondit en 64 quand il y a besoin. Et donc, quelque part, on a de la précision supérieure, mais on n'a pas un résultat plus précis. Et surtout, on a cette variation avec le même programme C, le même programme écrit par une personne, de deux résultats différents. Je suis capable de vous trouver un exemple avec trois résultats différents aussi. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, le programme n'est malheureusement pas suffisant dans certains cas. Alors, Xavier vous a parlé d'optimisation ce matin. Alors, il a parlé d'optimisation d'entier, ce qui est plus facile. Alors, en fait, les optimisations flottantes, il y en a quelques-unes qui sont valides, j'en ai trouvé. X fois 2, vous pouvez faire X plus X. Ça, vous avez le droit. 2 fois X aussi, ça marche. Par contre, il y en a plein où vous croyez qu'elles sont bonnes, mais en fait, ça ne marche pas. Et donc, elles sont plausibles, mais fausses. Et donc, vous n'avez pas le droit de faire x plus 0 donne x, par exemple. Parce que si vous avez un 0 moins, plus un 0 plus, et ça vous fait un 0 moins, si vous faites ça, alors que ça devrait faire un 0 plus. Donc, tout ce qui est, effectivement, 0 plus, 0 moins, NaN, parce qu'en fait, il y a deux types de NaN. Et donc, sur un certain nombre de cas, ça ne marche pas. Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est, effectivement, un peu d'analyse statique pour être sûr qu'on n'est pas dans les cas particuliers. Parce qu'en fait, il y a assez peu de cas où ça ne marche pas. Donc, si vous êtes sûr que ce n'est pas un âne, que ce n'est pas un zéro, tout ça, ça marche, mais il y a effectivement des cas où ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas optimiser sans réfléchir beaucoup et sans avoir une connaissance très fine du format flottant et de ce qui est demandé. Alors, en conclusion, les calculs sur ordinateur, c'est rapide. Parce qu'effectivement, c'est utilisé à plein d'endroits, notamment la météo, etc. Donc, si vous voulez la météo de demain, si vous la voulez aujourd'hui et pas dans une semaine, il faut utiliser des calculs à virgule flottante. Mais ce n'est pas exact. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ordinateur, il fait ce qu'il peut, mais il n'a qu'un nombre fini de chiffres. Et donc, effectivement, à la fin, si vous n'avez pas de chance, ou que votre algorithme n'est pas stable, ou que, etc., ce n'est pas forcément bien. Donc, il faut donc garder un œil critique sur les réponses fournies. Ce n'est pas parce que votre ordinateur il va vous répondre 0,1 que la réponse est 0,1. Vous avez le droit de réfléchir. Ou attendre que votre programme favori soit prouvé, formellement prouvé. Donc ça, on est en train. Pour l'instant, on fait un certain nombre de briques de base qui sont utilisées plus... des trucs plus gros, mais donc effectivement, on est en train de faire des preuves formelles qui sont liées à ce genre de calcul. Néanmoins, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de sous-cas, et il y a plein de cas où ça marche pas. Donc vous avez vu l'exemple du discriminant, pour les toutes petites valeurs ou les toutes grandes, ça marche pas. Ça marche dans une grosse plage, mais ça marche pas partout. Alors, un petit dernier exemple. Est-ce qu'il est midi ? Non, il est avant midi, donc je peux. Dans une galaxie très très lointaine, j'aime bien cet exemple-là. Donc, je fais un banquier, je vais vous proposer un super investissement. Vous me donnez 1 euro, donc 2,6828. L'année suivante, je prends 1 euro de frais, parce qu'il faut quand même que je vive, et je multiplie votre somme par 1. Bon, c'est pas très intéressant. L'année suivante, je prends toujours 1 euro de frais, parce qu'il faut bien que je vive à la fin du mois, et je multiplie par 2. L'année suivante, je prends 1 euro de frais, je multiplie par 3, etc. Et après une année, je prends toujours 1 euro de frais, et je multiplie par n. Pour récupérer votre argent, il y a aussi 1 euro de frais. Il ne faut pas exagérer. Et donc, on est dans la grande période de discussion sur les retraites. Donc, la question, c'est, dans 50 ans, pour votre retraite, combien d'argent je vais vous rendre ? Donc, quelque part, c'est un algorithme très simple que vous pouvez calculer. Il y a une réponse mathématique qui est très, très simple aussi. Ce qui est intéressant, c'est plutôt quel type de résultat on va avoir. Et en fait, j'ai exécuté cet algorithme sur un certain nombre de machines différentes avec des résultats un tout petit peu différents. Donc j'ai demandé à ma vieille calculatrice qui m'a répondu plus 2 10 puissance 52. Donc là c'est super, vous allez être super riche. Après j'ai demandé au C au format double précision et là il m'a répondu moins 4 10 puissance 48. Donc là vous êtes très 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 endetté. Après j'ai demandé au C au format simple précision, donc 32 bits, et là, il m'a répondu moins l'infini. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus qu'endetté, vous devez absolument tout à votre banquier. Et après, j'ai demandé à Maple, en 10 et 20 chiffres, et là, il m'a répondu moins 1 ou plus 1, 10 puissance 55 et 45. Alors, je vais quand même vous donner la réponse, la valeur exacte, qui est de 2 centimes, ce qui n'est pas tout à fait surprenant. Alors, les gens qui ont fait des maths ont reconnu l'exponentielle avec son développement limité. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, c'est très petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai des valeurs aussi grandes? C'est plutôt ça qui nous intéresse ici. En fait, toutes ces soustractions, multiplications ici, elles font des erreurs, mais complètement négligeables. En fait, l'erreur essentielle, elle est sur le E, ici. Donc, le E initial, forcément, il est inexact, parce qu'il a une infinité de chiffres et que je ne peux pas tout stocker. Et en fait, l'erreur de ce E initial, elle est multipliée par 2 fois 3 fois 4 fois 5, etc., fois 50. Et comme cette erreur initiale est multipliée par factoriel 50, ce que vous voyez à la fin, eh ben, c'est l'erreur initiale dans votre environnement de calcul multipliée par cette valeur très grande qui est factoriel 50. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait l'arrondi correct jusqu'à division racine carrée, mais l'exponentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Eh ben, l'exponentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours le même résultat suivant la bibliothèque ou le processeur qu'on utilise. Et donc là, on voit bien que cette minuscule erreur, parce qu'en fait, même si ce n'est pas l'arrondi correct, les erreurs sont quand même relativement faibles, elle est multipliée par un très grand nombre. Et donc, ça donne des résultats qui sont quand même très variés. Voilà. Je vous remercie de votre attention.